Bonsoir à tous, bienvenue dans 60 minutes BFM, votre grand rendez-vous d'actualité à la une ce soir. Cette menace d'un retour des affrontements au Proche-Orient. Donald Trump tient aujourd'hui une réunion de crise sur l'Iran. L'Iran qui, de son côté, exhibe ses armements, ses drones notamment. Le détroit d'Ormuz, lui, est plus bloqué que jamais. Et les Iraniens, eh bien, sur le terrain, on revendique le contrôle militaire. On sera bien sûr sur le terrain avec tous nos envoyés spéciaux et les meilleurs experts autour de moi. À 19h30, notre invité, eh bien, c'est l'homme du jour, Charles Alloncle, rapporteur de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Député ou procureur, eh bien, il répondra à justement toutes les accusations contre lui et il nous révélera les propositions de son rapport polémique. Mais avant cela, eh bien, on prend bien sûr la direction du Proche-Orient et cette tension qui monte à nouveau aujourd'hui entre les États-Unis et l'Iran. Une nouvelle escalade semble se dessiner ce soir. Raphaël Redon, Bertrand Séguier.
L'hypothèse d'un retour de la guerre doit être prise très au sérieux. L'Iran défie les États-Unis, exhibe ses drones Shahed.
Cette parade militaire avec cette foule de manifestants présents pour soutenir le régime.
Le chef de la diplomatie iranienne lui poursuit sa tournée. Après le Pakistan, il est en Russie.
Il est arrivé à Saint-Pétersbourg pour rencontrer Vladimir Poutine.
Le patron du Kremlin promet de tout faire pour ramener la paix au Moyen-Orient.
Et de son côté, Donald Trump refuse de lever le blocus américain, condition des Iraniens à la reprise des pourparlers.
Réunion de crise, selon plusieurs médias américains, sur la situation au Moyen-Orient.
Le président américain est convaincu que le blocus du détroit d'Ormuz, c'est la meilleure façon de faire céder les Iraniens.
Il y a de part et d'autre ce jeu de poker menteur où, visiblement, on veut voir qui lâchera le premier morceau.
Plus le temps passe sans que l'on négocie, plus la perspective d'une reprise des opérations militaires de grande ampleur ne peut que se renforcer.
Avec moi en plateau ce soir pour décrypter cette nouvelle escalade, Elsa Vidal. Bonsoir, Elsa, bien. Éditorialiste politique internationale BFM TV. Lova Rinel, bonsoir. Vous êtes ancienne commissaire à la commission de régulation de l'énergie, chercheuse spécialiste de la dissuasion nucléaire. À mes côtés aussi, Didier François. Bonjour, journaliste défense BFM TV. Laure Palaise, bonsoir, directrice associée de Mascaret, spécialiste de la politique américaine. Et bonsoir, mon général.
Bonsoir.
Général Jean-Paul Paloméros, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air et ancien commandant allié de l'OTAN. Votre éclairage va nous être très précieux parce qu'il y a aussi une question de réarmement dans cette période de cessez-le-feu qui est absolument centrale. Mais avant cela, on prend tout de suite la direction des États-Unis et plus précisément de Washington où on retrouve sur place l'un de nos envoyés spéciaux, Naoufel El-Khawafi. Bonsoir Naoufel. Aux États-Unis, eh bien, la tension monte encore. Une réunion de crise sur l'Iran est prévue aujourd'hui même par Donald Trump.
Oui, une réunion largement consacrée à la situation en Iran, mais surtout à ces négociations qui tournent en rond, qui patinent depuis plusieurs jours. L'objectif pour le président américain, ce sera de passer en revue l'ensemble des hypothèses, des options qui s'offrent à lui pour la suite de la guerre, pour les prochaines étapes, avec la possibilité de reprendre les frappes sur Téhéran. Ça fait en tout cas partie des hypothèses qui sont toujours à l'étude et qui sont toujours sur la table. Cette réunion, elle intervient malgré tout après une proposition qui a été faite par l'Iran aux États-Unis de rouvrir ce détroit d'Ormuz à condition seulement que les négociations concernant le nucléaire soient reportées dans un second temps. Pour l'instant, cette proposition ne semble pas être retenue par la Maison-Blanche. C'est vrai qu'hier, le président américain a expliqué qu'il souhaitait poursuivre son blocus naval sur ce détroit d'Ormuz pour étouffer l'économie iranienne, bloquer les importations, les exportations de pétrole iranien et pour tenter de faire céder Téhéran concernant ses exigences, les exigences américaines concernant le nucléaire. Vous l'aurez donc compris, ces négociations, elles tombent encore au ralenti. Et plus le temps passe, plus les perspectives de nouveaux pourparlers au Pakistan semblent s'éloigner.
Merci beaucoup, Naoufel El-Khawafi, avec Valentin Rib depuis Washington. Je salue Guillaume Lagagne qui vient de nous rejoindre. Bonsoir, maître de conférence à Sciences Po, spécialiste des questions de défense, auteur notamment de Géopolitique de l'Europe, le crépuscule d'une puissance, est aux éditions des presses.
Point d'interrogation.
C'est important dans la situation actuelle. Elsa Vidal, on voit réunion de crise du président Trump aujourd'hui sur cette question de l'Iran. Le président Trump qui a affirmé il y a quelques heures, je cite, nous avons toutes les cartes en main. Comment décrypter cette nouvelle escalade?
Eh bien, c'est parce qu'il y a du côté iranien
une nouvelle proposition sur la table. Une proposition après le round de négociation qui n'a pas eu lieu le week-end dernier, qui a été un échec. Et les Iraniens, eux, ont commencé un autre déplacement, une autre tournée diplomatique qui est passée aujourd'hui par Moscou, en même temps qu'ils ont proposé à Donald Trump un plan en trois points qui passe d'abord par la fin du conflit et le maintien d'un véritable cessez-le-feu au Liban et en Iran, le déblocage à cette condition du détroit d'Ormuz et ensuite seulement la question du nucléaire iranien. Il faut donc reprendre la tâche, retravailler. Les deux positions américaines et iraniennes sont complètement irréconciliables à ce stade, mais le travail diplomatique pourrait nous amener vers une solution négociée.
Alors, Palaise, les positions sont totalement opposées et incompatibles, nous dit à l'instant Elsa. Est-ce que ça veut dire qu'on va vers un retour possible des affrontements?
Alors, plusieurs choses. D'abord, effectivement, on est dans une impasse, dans une trêve prolongée, en fait, dans une sorte d'inconfortable entre deux, de Niger ni paix, qui est voilà, qui pose question. Au niveau de la politique intérieure américaine, il faut quand même noter qu'on est à J60 du conflit et que le Congrès n'a pas exprimé d'opposition. Il n'y a pas d'opposition claire aux États-Unis sur cette
question. Donc Donald Trump, sur cette politiquement, question. Peut la poursuivre.
Ils auraient pu activer une loi fédérale qu'on appelle la War Power Resolution qui dispose que le président doit obtenir l'autorisation du Congrès pour engager des troupes à plus de 60 jours. Ça n'a pas été le cas. Le Congrès est derrière lui et donc, voilà. Et les événements du week-end n'ont pas non plus changé la donne puisque ça l'a même conforté face à, voilà, à ce qui s'est passé et une gauche radicale, comme il a pu le dire, anti-guerre.
Guillaume Lagarde, est-ce qu'on s'approche finalement d'une reprise des affrontements d'une certaine façon quand on le voit?
Alors, je pense que c'est un peu prématuré de le dire. Ce qui est certain, c'est que je pense que les États-Unis ne prendront pas l'initiative d'une reprise des combats. En revanche, si les Iraniens, qui sont quand même aujourd'hui un peu acculés, moi j'interprète quand même la tournée régionale de M. Arashghi comme une tentative de trouver des alliés dans une situation de très grande précarité pour l'économie iranienne, eux pourraient effectivement être tentés par une reprise, une escalade militaire, et dans ce cas, les États-Unis pourraient répliquer. Je rebondis sur ce qui vient d'être très justement dit. 1973, c'est la War Power Resolution, c'est-à-dire on était en pleine guerre du Vietnam, on voulait contrôler l'action militaire du président, et il y avait cette volonté du Congrès de limiter les interventions militaires à l'étranger. Aujourd'hui, effectivement, la position intérieure de M. Trump, elle n'est pas si mauvaise que cela. L'opinion publique américaine est globalement contre la guerre, mais lorsqu'on regarde sa base électorale, c'est-à-dire les électeurs républicains, eux, sont très favorables. Il y a une petite branche MAGA qui a critiqué, mais finalement, ça reste assez limité. Et après tout, les élections de mi-mandat vont venir, mais elles sont encore loin. On parle de novembre, c'est-à-dire dans plusieurs mois.
En général, Jean-Paul Paloméros, on a tendance à penser, peut-être le grand public, qu'un cessez-le-feu, c'est la fin de la guerre et le début de la paix. En réalité, ce n'est pas cela. C'est une période où les militaires refont des stocks et de chaque côté, c'est en train de se passer, c'est bien cela?
Ah oui, on a vu la montée en puissance, en particulier du troisième groupe aéronaval, ce qui est quand même une grande première. Hein. Trois groupes aéronavals engagés dans cette bataille des détroits, puisqu'il y a à la fois la mer Rouge et puis, bien sûr, le détroit d'Ormuz qu'on commence à connaître assez bien. Moi, je crois que, je dirais pas contre Guillaume, mais on est plutôt quand même dans une logique de guerre, quoi.
Pourquoi?
Parce que les objectifs sont tellement différents et chacun a beaucoup à perdre. Le pouvoir, c'est tout simplement existentiel. Et Trump, c'est son engagement dans une guerre qui est contre son naturel. C'est pour ça qu'on pensait pas d'ailleurs qu'il y aille. Et il faut qu'il sorte de là quelque part avec un scalp, si vous m'excusez cette expression. Il faut qu'il ait quelque chose. Or, le détroit d'Ormuz, c'est quelque chose, sauf que avant que la guerre ne commence, il était libre. Donc, c'est même pratiquement pas une victoire, c'est revenir au statut quo ex ante. Donc, il faut au moins qu'il y ait un pas sur le nucléaire. Alors, c'est pas inintéressant que les Iraniens soient retournés voir les Russes, puisque ces Russes, ils ont une petite marotte, c'est de dire confiez-nous-le et nous on va le mettre à l'abri. Est-ce que ça veut dire qu'ils seraient capables de l'enrichir pour le redonner aux Iraniens? Je vais pas jusque-là, mais on peut s'interroger. Moi, depuis le début, pratiquement même de la guerre en Ukraine, je me suis demandé si les Russes jouaient pas une carte avec les Iraniens là-dessus.
Mais en ce moment, en général, quand on voit, on va la revoir, cette carte de l'armada US au Proche et au Moyen-Orient qui n'a jamais été aussi importante, ça veut dire qu'aujourd'hui, les militaires américains sont prêts à frapper.
Ils sont prêts à frapper, c'est le moins qu'on puisse dire.
À refrapper à nouveau.
Bien sûr, avec les Israéliens, dont on pourrait dire qu'ils n'attendent que cela. Peut-être qu'il se met au singulier.
On voit ces trois groupes aéronavals, regardez, dont vous parliez.
Oui, oui, bah, il contrôle. Alors, évidemment, le contrôle du détroit d'Ormuz se fait à distance, hein. Ce qui n'est pas un problème pour eux, puisqu'ils ont toute la puissance de la marine américaine, donc ils peuvent contrôler absolument qui ils veulent à tout moment. Maintenant, c'est peut-être quand même ça le piège de s'installer dans ce pseudo équilibre sur le détroit d'Ormuz, parce que certes les Iraniens vont payer le prix et ils sont capables de soutenir ce prix. À mon avis, c'est pas la population qui, c'est pas leur commisération vis-à-vis de leur population qui va changer les choses. Mais d'un autre côté, nous, de nombreux pays dans le monde, hein, je parle pas que des pays occidentaux, sont en train aussi progressivement d'être confrontés à les vrais problèmes qui vont se transformer forcément en problèmes sociaux.
La question des stocks de l'armement, on en a beaucoup parlé pour l'Iran, mais Didier, on en parle aussi pour les États-Unis. Depuis plusieurs jours, on lit, on voit les moyens massifs qui ont été déployés déjà par les Américains, les missiles Tomahawk, les systèmes Patriot, les intercepteurs, oui. Plus de 50% de stocks d'avant-guerre qui auraient déjà été utilisés. Est-ce que les États-Unis aujourd'hui, néanmoins, ont encore les moyens d'aller frapper demain si Donald Trump leur donne ?
Oui, ils ont usé des stocks. C'est normal, quand on fait la guerre, on en tire des munitions. Attention sur les 50%. Je ne sais pas d'où ça sort, cette affaire. C'est un truc qui a été sorti par la presse américaine.
NBC.
Oui, enfin, NBC ou pas NBC. Ce ne serait pas la première fois qu'ils nous racontent des bêtises.
Il n'y a pas de problème côté stock américain, si j'ose dire. Si Donald Trump appuie sur le bouton cette nuit.
Non, s'il appuie sur le bouton traîner, ça va partir. Les gens qui savent aux États-Unis quelle est la réalité des stocks de munitions, ça se compte sur quelques mains et quelques poignées de mains.
Regardez, on voit Didier, c'est une étude du Centre d'études stratégiques qui est publiée.
Encore une fois, il y a les gens qui à l'état-major gèrent ça.
C'est évidemment confidentiel, c'est ça.
C'est très confidentiel. Ils le gèrent au niveau fédéral, enfin pour tous les théâtres, et dans chacun des théâtres. Donc chacun des théâtres a fait ses demandes et dit ce dont ils ont besoin. Je pense qu'ils ont tiré, et pareil, quand ils tirent, ils redemandent des recomplètements. C'est pas la foire aux slips, les armées. Ah, vous le racontez.
Les armées, on retiendra cette phrase.
Vas-y.
Non, il y a quand même un domaine qui est très sensible et où là, ils vont pas pouvoir corriger le tir très rapidement, c'est la défense antiaérienne.
C'est ça.
C'est typiquement les Patriotes. Et là, on voit que sur tous les théâtres d'opération, mais c'est une grande leçon, hein, sur tous les théâtres d'opération, il y a une saturation et donc il y a une surconsommation de ces munitions à défaut d'autre chose, si vous voulez. Donc là, il y a une faiblesse, elle est avérée. Les pays du Golfe en sont les premières victimes, même s'ils ont des atouts, mais ils n'en ont pas suffisamment. L'Ukraine en est une victime. Et on sait que des Patriotes, ça ne va pas se construire du jour au lendemain.
En tout cas,
c'est des armements complexes. Et même s'ils accélèrent la cadence, il y a une limite. Au rythme où ils les consomment, c'est difficile de suivre. Et les Israéliens aussi, hein, bien sûr.
Dans cette période, si j'ose dire, de réescalade, on voit que chacun montre ses muscles. On le voit du côté américain. On l'a vu ces dernières heures aussi du côté iranien, avec ces vidéos de propagande, vous allez les découvrir, des drones Shahed exhibés justement dans les rues de cette ville iranienne. Levar Enel, on lisait aussi, même s'il faut rester prudent, ce sont des chiffres là du Pentagone, que près de la moitié des stocks de missiles balistiques et de lancement du régime iranien seraient intacts. Quand on voit l'armée iranienne qui exhibe ses drones, ça veut dire quoi ? Ça veut dire nous sommes prêts à reprendre les hostilités.
De toute façon, ils vont pas dire autre chose. Enfin, on est dans un moment où chacun doit être capable de maintenir une forme de capacité à aller au-dessus.
Et ils le sont ?
En fait, ils sont prêts à y aller. Après, sur la question des stocks, je veux dire exactement la même chose que Didier. Rappelez-vous, au début du conflit, on avait des projections qui se sont avérées fausses, de centres totalement crédibles. Hein. Mais ça veut dire que c'est confidentiel, qu'on fait sortir des chiffres dans une phase d'estimation, mais que la réalité est tout autre. D'une part, dans une capacité de renouvellement, dans une capacité sur la capacité iranienne à dissimuler quand même, qui est pas des moindres. Donc, faisons attention sur la question
sur les
des
drones,
stocks.
On n'en sait rien.
Oui,
les drones. À la limite.
Ouais. De part et d'autre, je pense que là, mais là, il y a une volonté de dire, on ne cédera pas.
on est capable d'y aller. Et franchement, sur un moment de crispation à l'aune d'accord où les deux parties ont envie de durcir leur... Enfin, c'est pas envie, ils durcissent le ton. On imagine mal les Iraniens abdiquer en faisant autre chose que ce qu'on vient de voir. Donc j'ai envie de dire, là, on est dans la ligne totale de la tension qu'on est en train de décrire depuis plusieurs jours. Je suis pas étonnée et c'est même attendu d'avoir ce genre d'exhibe, enfin voilà, d'exhiber des drones Shahed à ce moment-là.
Alors, Palais, qu'est-ce que ça veut dire ?
Non, mais au-delà de la posture et de la communication, il y a des objectifs qui sont quand même intéressants à analyser. De la part d'abord des Iraniens, la presse américaine, elle fait état de division au sein de l'exécutif, enfin des dirigeants iraniens sur la nature des concessions nucléaires à faire. Ça, c'est un premier point qu'il faut avoir en tête. Et puis Donald Trump, il est dans une position très inconfortable malgré tout, parce que soit il accepte un accord en deçà de des attentes, et c'est-à-dire maintenir un blocus au risque, mais au risque d'aggraver la situation économique mondiale. Donc on est quand même sur un terrain un peu glissant des deux côtés et dans un jeu de poker menteur certainement.
Sur la partie iranienne, je crois qu'il faut vraiment faire attention. On a pour mémoire les 10 ans de négociations sur le JCPOA. Ouais. On a décrit, et les journalistes américains et d'autres ont décrit pendant des années, le clivage au sein de l'exécutif qui repose sur exactement les mêmes piliers. La partie soi-disant radicale et idéologue qui dit on ne négocie rien, on reste sur notre capacité à enrichir et à faire une arme, et l'autre partie dite modéré, capable d'une forme d'ouverture diplomatique, qui parle. La réalité, moi j'ai souvent parlé de duplicité diplomatique, ils jouent de ça. À dire justement, regardez comment nous sommes divisés, et chaque victoire que vous obtenez de notre... Enfin, chaque concession que vous obtenez de notre part, c'est une victoire pour vous. À la fin des fins, ils conservent le vrai sujet de fond, à mon sens, qui est moins de la part de Donald Trump vis-à-vis des Iraniens, que de Donald Trump vis-à-vis de l'ONU, qui a accepté le droit à l'enrichissement, chose contre laquelle Donald Trump et les Israéliens sont totalement contre. C'est ça le vrai sujet. Et en fait, là, les Iraniens essayent de revenir en disant « Regardez, non, nous, on a envie de parler. » Je ne dis pas qu'elles n'existent pas, je dis qu'elles incarnent des réalités qui étaient déjà à l'époque de Zarif.
Mais
et
c'est
de
un vétéran conservateur qui va remplacer.
Général, quand on voit l'armement iranien qui est exhibé, là aussi, c'est une façon de dire « Nos capacités militaires, vous ne les avez pas entièrement détruites. »
C'est plutôt un message pour le peuple, enfin le peuple qui suit plus ou moins à la base, pour les passes d'Aran eux-mêmes et puis tous ceux qui gravitent autour des passes d'Aran. Je pense que le vrai peuple iranien, celui qui est sorti dans les rues, lui, il est assez loin de ça. Il connaît assez bien ce régime pour savoir qu'il y a autant de maquillage et autant d'animation qu'autre chose. Maintenant, ils ont quand même fait la preuve qu'ils savaient s'en servir. Ouais. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est vrai, contre des adversaires affaiblis, mais ils ont fait ça avec, malheureusement, avec beaucoup de précision, et ça, ils ne l'ont pas acquis tout seuls, on le sait, hein. Les Russes, les Chinois, frapper à des coups sûrs avec précision dans la distance, c'était pas donné au départ.
Dans un instant, on va venir, bien sûr, sur cette question du détroit d'Ormuz, qui est totalement bloqué. On verra le chef de l'État qui s'est exprimé, les Iraniens qui affirment militairement qu'ils garderont la main là-dessus. Juste cette information qui vient de nous parvenir, qui concerne la France, la commission d'enquête parlementaire a adopté le fameux rapport du député à l'oncle sur l'audiovisuel public. 4 mois de débat, 12 voix contre 10. Si je vous en parle, c'est parce que Charles à l'oncle sera justement notre invité dans quelques minutes. Vous restez avec nous. Mais pour ce qui s'agit justement de cette question iranienne, nous avons choisi ce soir avec Nargis Hadji de vous raconter une incroyable histoire qui s'est déroulée au début de son conflit. Nargis, bonsoir.
Bonsoir, Guy.
Une base américaine qui a été frappée par un avion américain. Vous nous parlez d'une attaque qui a été menée par l'Iran dès les tout premiers jours de la guerre.
Absolument, nous sommes fin février et l'Iran mène une attaque contre le camp de Buering. On va le voir juste ici, c'est au Koweït. Le camp, c'est une base américaine jusque-là qui est protégée par des systèmes antimissiles Patriot. Et pourtant, un chasseur iranien réussit à pénétrer l'espace aérien de la base. Il largue des bombes. Mais ce qui frappe, et Guillaume, vous l'avez dit, c'est que l'appareil utilisé par les Iraniens est un avion de fabrication américaine, un F-5. Pour l'anecdote, c'est l'avion qui est utilisé dans le film Top Gun. Les MiG-28 ont été en réalité repeints. Les MiG-28 sont en réalité des F-5 repeints en noir. L'avion est développé donc à partir des années 50. Il est produit en série à partir de 1959. Et à l'origine, il est destiné aux États-Unis et à ses alliés pendant la guerre froide. Alors comment un chasseur léger, simple et peu coûteux, qui est aujourd'hui dépassé par les Américains puisqu'ils ne l'utilisent plus qu'à l'entraînement, s'est retrouvé dans les mains de Téhéran. Eh bien, il faut savoir que dans les années 60-70, l'Iran du Shah est allié de Washington et les États-Unis, eh bien, livrent une centaine de ces F-5 à Téhéran. Après la révolution islamique, c'est la rupture avec Washington, mais la flotte est conservée et maintenue en service. Et aujourd'hui, vous le voyez, elle est toujours utilisée par les gardiens de la révolution.
Merci beaucoup, Nargis. En général, c'est quand même une information à peine croyable si on ne se réfère pas à ce qui s'est passé il y a des décennies.
On va apprendre de plus en plus sur la réalité de cette guerre. Nous, on la vit à distance et personne ne veut afficher clairement ses faiblesses. Mais ça, c'est quoi? C'est en fait du courage et de l'audace. Et des pilotes iraniens qui ont appris leur métier et qui le font en disant nous, on va défendre notre pays. Et il suffit pas d'avoir des outils très sophistiqués. Ils ont joué sur l'effet de surprise, très certainement en arrivant en très basse altitude. On voit que la frontière est pas très loin, donc c'est pas très difficile de pénétrer sur cette distance-là. Je suis pas sûr que le camp en question était parfaitement bien défendu, mais on a vu aussi, à contrario, que les Koweïtis eux-mêmes avaient abattu des avions américains. Alors, il y a quand même un petit peu d'ordre à remettre, si vous voulez, sans... vous savez, c'est un métier difficile. Il y a un peu d'ordre à remettre quand même dans la défense anti-aérienne de tous ces pays. Les Émirats étaient peut-être mis à part parce qu'ils ont atteint un niveau opérationnel qui est supérieur aux autres.
Alors, on le disait, le détroit d'Ormuz est plus bloqué que jamais et on va se rendre tout de suite dans la région. On retrouvait l'un de nos envoyés spéciaux, Hugo Smag. Vous êtes sur place avec Clément Gredenier. Vous êtes à Doha, au Qatar. Une nouvelle fois, eh bien, ces dernières heures, l'Iran a réaffirmé sa volonté de contrôler ce détroit, mais également d'en tirer des avantages financiers, mais avec certaines modalités. Dites-nous lesquelles.
Bien, écoutez, ils aimeraient imposer un péage dans le détroit d'Ormuz. C'est une proposition qui revient depuis plusieurs semaines et notamment depuis le blocage du détroit d'Ormuz également par les Américains. Le blocus qui coûte extrêmement cher à l'Iran. Et donc, la proposition de l'Iran, eh bien, c'est de faire payer les bateaux cargo, les pétroliers qui passent dans ce détroit d'Ormuz. Mais alors, attention, cette proposition contrevient aux règles internationales du transport maritime puisque les eaux internationales ne doivent pas être sujette justement à ce type de péage qui pourrait exister dans le détroit d'Ormuz car l'Iran le souhaite. Alors pourquoi il souhaite l'imposer? Parce que l'Iran perd énormément d'argent depuis le début de cette guerre. Le Wall Street Journal, il y a quelques jours, disait que chaque journée de guerre coûtait aujourd'hui 450 millions de dollars à l'Iran. L'Iran qui se trouve dans une situation économique extrêmement complexe depuis que les Américains ont mis en place ce blocus qui empêche eh bien tout bateau de passer par les ports iraniens. Alors, est-ce que ce péage existe déjà? D'après les Iraniens, oui, il existe déjà. Ils disent même qu'ils ont déjà reçu plusieurs fois eh bien, de l'argent de bateaux qui tentaient de passer le détroit d'Ormuz. Mais aujourd'hui, rien n'est officiel concernant ce péage. Et évidemment, les pays européens s'y opposent, notamment Jean-Noël Barrot qui l'a réaffirmé, mais également les ministres anglais, il y a très peu, ont dit qu'il ne devait pas y avoir de péage dans ce détroit d'Ormuz. Dernière information à vous donner sur la situation économique de l'Iran et pourquoi ils veulent imposer ce droit de passage. C'est parce qu'en Iran, aujourd'hui, par exemple, il y a une inflation qui est absolument galopante. On parle de 70% d'inflation si le blocus américain continue. Et si les frappes à l'avenir devaient recommencer, elles pourraient même dépasser les 100%, voire atteindre les 120% d'inflation.
Merci beaucoup Hugo Smag depuis Doha au Qatar avec Clément Gredenier. Guillaume Lagan, le détroit d'Ormuz sera-t-il iranien pour toujours?
Écoutez, j'ai la réponse, mais je ne vais pas vous la donner. en vrai dire, on n'en sait rien. Géographiquement, évidemment que le détroit d'Ormuz restera à côté de l'Iran, enfin devant l'Iran. Maintenant, comme l'a dit votre reporter, la privatisation ou la nationalisation du détroit d'Ormuz, c'est contraire au droit international. Vous savez, le droit international en la matière, il est régi par un traité de 1982 qui s'appelle le traité de Montego Bay. C'est le traité sur le droit de la mer. Et le traité sur le droit de la mer nous dit le passage des détroits se fait librement. On peut pas imposer un passage payant. Par exemple, lorsqu'on franchit le détroit de Gibraltar, l'Espagne et le Maroc ne font pas payer les bateaux qui franchissent ce détroit. Donc ce qui se passe avec l'Iran aujourd'hui, c'est qu'elle remet en question ce traité qu'elle n'a par ailleurs pas ratifié, pas signé. Et évidemment, ça pourrait donner des idées à d'autres pays. Aujourd'hui, par exemple, vous avez une déclaration en Indonésie du ministère des Finances indonésien disant bah tiens, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas payer nous le détroit de Malacca, vous savez, celui qui passe devant Singapour, ça pourrait nous permettre de redresser nos finances publiques. Donc ça, c'est une, si vous voulez, c'est un poison qui pourrait se répandre dans le monde entier si on commence à fragiliser la liberté des mers et la libre navigation des détroits. Sur l'Iran et sur l'affirmation selon laquelle elle fait payer aujourd'hui ce passage. Alors moi, je n'ai pas d'éléments objectifs, je ne suis pas certain que ce soit vrai. Ce que j'ai noté, c'est que l'Iran a dit que ce passage se ferait, enfin le paiement de ce passage se ferait dans sa monnaie nationale, le rial. Ce qui est quand même étonnant parce que c'est une
pourquoi
monnaie.
Pourquoi vouloir cela?
Alors moi, je l'explique par le nationalisme iranien, l'idée que justement ils sont encore une nation capable d'imposer aux autres leurs valeurs et notamment leurs valeurs monétaires, mais objectivement ils n'ont pas intérêt parce que si vous voulez utiliser cet argent pour acheter d'autres choses, vous avez plutôt intérêt à faire payer en une devise exportable, par exemple en dollars, éventuellement en yuan, mais vous serez obligé d'acheter les choses en Chine. Donc en réalité, il n'y a pas non plus sur le plan financier de solution évidente pour l'Iran. Le nœud coulant, si vous voulez, du blocus dans le blocus que les États-Unis imposent à l'Iran, il s'applique aussi sur le plan financier. C'est très compliqué pour ce pays de se refinancer. Et l'enjeu des avoirs qui sont gelés par les États-Unis, c'est aussi, je pense, un des aspects de la négociation.
Le Varinel, quand l'Iran dit qu'il revendique le contrôle militaire et qu'il continuera de le faire de ces détroits d'Ormuz, comment ça se traduirait? Ils vont renvoyer plus de bateaux si leur marine est encore... C'est encore utilisable?
Alors, il y a des annonces, et puis effectivement, comment cela s'incarnerait? Je crois que sur la partie marine, on a quand même certains éléments qui montrent que ça paraît assez difficile pour eux d'inventer des navires et des bateaux, alors même qu'ils ont été détruits. À mon sens, ce qui est pertinent, c'est de comprendre que le détroit d'Ormuz, c'est un sujet qui est devenu, effectivement, pour les Iraniens, c'est un acquis, entre guillemets, dans le cadre du conflit. Et maintenant, c'est devenu un outil de rapport de force. En fait, c'est un dialogue stratégique qui est en train de s'imposer, où les deux parties, donc j'entends là les Américains et les Iraniens, sont en train de durcir pour savoir qui a vraiment la maîtrise du détroit pour dire qui a la main sur les négociations. C'est ça. Et quelles négociations? C'est la question de l'uranium, oui, du nucléaire qui revient. Et d'autres, parce qu'on a oublié la question du balistique, on a oublié la question des proxys, on a oublié la question du régime change, où je vois les Américains ont quand même un discours plus atténué ou ambivalent. Néanmoins, ça pose des questions économiques assez fortes. On a parlé des conséquences, effectivement, sur le marché. On a plusieurs reportages ici sur BFM, sur les conséquences à la pompe. Je rappelle que sur les États d'Afrique, on a 29 pays dont la monnaie a été dévaluée. On a au moins 3 ou 4 pays qui sont en état d'urgence énergétique dans le monde. Ça veut dire que ça, la question d'engrais, la question de la sécurité alimentaire, la question... Donc, en fait, ils sont en train de prendre en otage le monde entier. Et la question est moins qui a la main, mais en fait, à qui bénéficie le temps? Parce qu'effectivement, on parle d'une crise économique. Je rappelle quand même que l'Iran a connu des séquences quand même de crise, enfin de contorsion, de sanctions qui les ont bloqués. Alors, beaucoup plus fort sur le plan financier, mais plus étalé dans le temps. C'est-à-dire, la guerre Iran-Irak, c'était quasiment 400 millions de dollars, effectivement, de bloqués, mais sur une longue période.
Là, 1980 et 1988. Exactement.
On est sur une période de plus petite, rappelez-vous les sanctions de 2012-2015 sur le SWIFT, vous savez capacité d'échange bancaire, et enfin sur le maximum pressure où effectivement on a incapacité d'exporter. Donc on a su faire des blocus. Néanmoins là, la vraie différence, c'est le temps, c'est-à-dire que là ils sont un peu plus réduits dans le temps. On parle de 3 à 4 mois pour la partie iranienne, les Israéliens estiment à 15 jours, 3 semaines max. Je pense que la vérité est au milieu. Donc savoir si est-ce qu'on a un mois et demi, le monde entier a un mois et demi pour tenir ou pas. C'est ça la vraie question. Et c'est les Américains aussi. Et là, effectivement, on n'est pas sûr. Mais en fait, c'est sur ça qu'ils jouent.
Juste, Elsa, sur la question, on disait de ce moment où chacun montre ses muscles et pendant ce cessez-le-feu se réarme. Sait-on qui réarme l'Iran?
Parmi les pourvoyeurs d'armement, ou en tout cas ceux qui contribuent à armé l'Iran, il y a la Russie et la Chine dans une moindre mesure. Et l'Iran a aussi misé largement sur sa production de drones qui ne demande pas de très forte valeur ajoutée industrielle. Il a d'ailleurs contribué à former la Russie avant que celle-ci ne réinjecte vers lui des innovations technologiques. Les Russes ont fait progresser les drones que l'Iran lui avait d'abord livrés à la Russie. Et c'est d'ailleurs intéressant de voir que cette cette guerre, elle se fait sous un angle qui vient affaiblir en réalité l'Occident diplomatiquement dans de nombreux pays du Sud. Ça permet à des pays comme la Russie, comme la Chine, mais aussi la Corée du Nord, de faire valoir leur dénonciation d'une hypocrisie qu'elles imputent à l'Occident, puisque malgré tout, l'intervention américaine ne s'est pas faite dans le cadre de l'ONU.
Général Palomero, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, en reprenant sur le détroit d'Ormuz, il faut dire que le détroit d'Ormuz n'a pas été pris comme un objectif stratégique au début de cette campagne. On peut le regretter, mais c'est ainsi.
Par les Américains, vous voulez
dire? Par les Américains.
Ils auraient dû le prendre.
L'expérience prouve, le prendre, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ça faisait partie de la guerre, des objectifs de la guerre. Mais d'un autre côté, laisser carrément le détroit d'Ormuz et la liberté de contrôler le détroit d'Ormuz aux Iraniens, ça, c'était une grande erreur. Donc, oui, il fallait faire quelque chose. Le fait qu'on se soit retiré pour faire un deuxième blocage, ça ne fait qu'empirer finalement le problème. C'est par défaut. C'est une solution par défaut. Dernier élément, c'est très facile de contrôler le détroit d'Ormuz. Avec vous mettez le feu à 2-3 pétroliers et personne ne passe. Parce qu'ils ont peur. Ils savent pas exactement. Alors vous essayez, ils peuvent cribler un petit peu, laisser passer 2-3 pétroliers. C'est pas ça qui va renflouer les pays qui sont en manque, comme vous l'avez parfaitement décrit, dans tous les domaines. Donc ce choix qui a été fait, c'est pas vraiment un choix courageux, il n'est pas forcément incompréhensible, mais en tout cas, il ne résout pas la question.
Ça veut dire, Didier, qu'il faut que les Américains envisagent, si j'ose dire, d'aller prendre le détroit d'Ormuz, comme le dit le général Hopper.
En fait, pareil, prendre le détroit d'Ormuz, en fait, la meilleure façon qu'ils aient de le prendre, c'est ce qu'ils font en ce moment, c'est le contre-blocus, qu'ils auraient dû commencer bien avant. Alors, qui visiblement, s'ils ne l'ont pas fait, c'est. Bon, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que parce que c'est compliqué avec la Chine, c'est peut-être compliqué avec l'Inde. Et c'est ce qui explique peut-être aussi pourquoi, de temps en temps, ils laissent passer un peu de navires. Mais enfin, depuis le 13 avril, ça bloque. Alors certes, c'est pas un blocage absolu, on voit qu'il y a quelques pétroliers qui passent, il y en a à peu près 6 ou 7, je crois qu'ils sont passés, mais on voit aussi que ça pose un...
Je crois qu'avant c'était une vingtaine de navires,
c'est ça. Hein,
une vingtaine de navires iraniens qui passaient vers... Donc là, on est quand même passé de 20 par jour à une trentaine depuis 15 jours.
C'est ça, voilà. Mais surtout ce qu'on voit, c'est que les stocks, les réserves qui permettent de stocker le pétrole iranien se remplissent. Puisque là, on voit qu'ils sont en train de faire venir des vieilles coques abandonnées depuis je sais pas combien de temps pour essayer de enfin, il y a un vieux super tanker, je crois qu'il fait 200 millions de barils, qui sont en train de traîner. Il est même plus capable d'aller jusqu'à l'île de Karg pour le remplir pour gagner 48 heures. Donc, on voit bien que là, c'est quelque chose qui va peser lourd sur une capacité d'extraction déjà abîmée non pas par les bombardements, mais par les sanctions depuis des années. Donc, on voit bien que là, il y a un levier puissant. Oui, le levier du blocage du détroit d'Ormuz par les Iraniens est puissant. On le voit tous les jours à la pompe, on voit combien ça pèse sur nos opinions publiques, et je pense que c'est certainement aujourd'hui le plus puissant des leviers politiques iraniens.
Et il y en a un qui ça n'a pas échappé, Didier. Évidemment, c'est le chef de l'État, Emmanuel Macron, qui était en déplacement aujourd'hui, notamment en Andorre. Écoutez ce qu'il dit au sujet de ce détroit d'Ormuz.
On se bat pour que le prix de l'essence diminue, là. Je sais, il faut qu'on rouvre ce fichu détroit. C'est ça qui nous fout dedans.
Ouais, c'est
détroit d'Ormuz, c'est tout
chaud.
T'as 20% des capacités mondiales bloquées dans ce truc-là.
Mais là, il faut absolument...
Là, on se bat, mais il y en a qui nous aident pas.
Faut qu'on rouvre ce fichu détroit, Elsa.
Ouais, il le faut, en effet.
Mais il y en a certains qui ne nous aident pas. Ils ciblent qui ? Les Iraniens ou Donald Trump, Emmanuel Macron ?
Les deux. Il vous laisse le choix de l'interprétation qui révélera votre orientation. Et c'est évident que nous sommes dépendants de cette situation. Et c'est d'ailleurs le caractère le plus inconfortable pour une France et une Europe qui, certes, n'est pas la zone la plus dépendante du pétrole et des marchandises qui transitent par ce détroit, mais qui tout de même sont impactées à un moment où les finances publiques, tout particulièrement de l'Hexagone, ne permettent pas véritablement d'amortir ce choc. Et c'est très important, même si ça vient tout de même nous rappeler quelque chose qui est salutaire, à savoir que toute dépendance doit être combattue. Et après la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui nous a rappelé que nous devons prendre de la distance vis-à-vis de la Russie, là nous devons prendre de la distance vis-à-vis de cette dépendance aux États-Unis et au pétrole qui passe par le Moyen-Orient.
Guillaume Layan, Elsa dit dépendance de la France ou impuissance ? Chef de l'État, il dit... Faut ouvrir ce fichu détroit, mais au-delà des paroles, est-ce qu'on peut faire quelque chose ?
Bon, alors là, il était dans la principauté d'Andorre, qui n'est pas une très grande puissance maritime, hein, c'est clair. La France, en revanche, et beaucoup de pays européens, ils ont des capacités navales. Mais c'est vrai que la réaction de l'Europe depuis que la guerre en Iran a commencé, c'est une réaction de retrait. On a les Américains qui nous ont demandé de mettre à leur service un certain nombre de capacités, notamment de déminage. Pour l'instant, les opérations européennes qui sont envisagées n'interviendraient qu'après la guerre, c'est-à-dire après la fin du conflit. Vous avez un projet anglais, un projet français. Donc c'est vrai que l'Europe... aujourd'hui, elle est plutôt dans une stratégie d'attente, un peu de critique, même si, objectivement, elle a des intérêts économiques majeurs à ce que le détroit d'Hormuz se rouvre parce que le prix de l'énergie en Europe est très élevé, et c'est un des problèmes pour la croissance, parce qu'aussi, la capacité balistique de l'Iran, ses capacités nucléaires, c'est aussi en réalité une menace sur le propre sol européen. Rappelons-nous qu'au début de la guerre, c'est l'île de Chypre, membre de l'Union européenne, qui a été visée par les missiles iraniens. Et d'ailleurs, ça n'est pas par hasard que les Européens se sont réunis à Chypre il y a quelques jours pour discuter de la capacité européenne de réagir en cas de crise. Ouais. Ça, c'est un élément très important. Et le dernier aspect, c'est que cette brouille euro-américaine, parce qu'il faut quand même le dire, il y a aujourd'hui un éloignement des Européens vis-à-vis des États-Unis. On le voit par exemple avec le chancelier Merz, chancelier allemand, qui cet après-midi a critiqué l'intervention américaine devant un public de lycéens. C'est quand même une mauvaise nouvelle globalement. Pourquoi ? Pour les Européens, parce que notre priorité aujourd'hui, c'est l'Ukraine. Or, dans le soutien à l'Ukraine, il y a l'aide américaine très importante. Et donc, on n'a pas non plus intérêt à ce que les États-Unis se désengagent de la sécurité européenne, en tout cas à très court terme. Peut-être à terme, ça sera possible si l'autonomie stratégique européenne se réalise. Mais cette brouille euro-américaine est quand même une menace pour la sécurité même de l'Europe et en tout cas pour la sécurité de l'Ukraine.
Didier, pendant ce temps-là, Vladimir Poutine propose, si j'ose dire, quasiment son aide. Il rencontre le ministre iranien des Affaires étrangères. Qu'est-ce que cela dit de la stratégie de Moscou ? Est-ce qu'ils ont un poids, d'ailleurs, dans ce conflit ?
Alors, ils ont toujours eu des liens et un poids sur la question du nucléaire iranien. Jusque pendant des années, ils ont fait partie des pays qui négociaient, au même titre que la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis et l'Allemagne, le désarmement potentiel, enfin, la dénucléarisation de l'Iran, puisque c'est les pays qui faisaient partie de l'accord qui avait été signé de désarmement, enfin de non-prolifération. Merci, excuse-moi. Après, ils ont aussi toujours eu des liens avec les Iraniens, c'est eux qui ont fabriqué, et ils ont toujours à peu près 600 ingénieurs dans la centrale de Bouchehr, sur place. Ils ont resserré leurs liens militaires, ce coup-là, au moment de la guerre en Ukraine, puisque les drones Shahed d'origine iranienne sont ceux qui frappent tous les soirs les villes ukrainiennes et les civils ukrainiens, rappelons-le, et que le drone Geran, qui est en fait une adaptation du drone Shahed, qui est aujourd'hui construit en Ukraine, vient des Iraniens. Donc ils ont une stratégie où ils se sont beaucoup rapprochés, d'autant que ils ont de fait, par la Caspienne, une frontière commune sur laquelle on a peu de visibilité sur ce qu'ils fabriquent pour de vrai. Donc, il y a une... Puis s'ils peuvent...
Ils ont...
Voilà. Alors, ils veulent pas de prolifération, mais s'ils peuvent se aider un petit peu les Iraniens à emmerder les Occidentaux, bah, ils vont pas se gêner.
Quant aux Chinois...
Excusez-moi, je vous passe la parole. Est-ce que Poutine a la clé ?
En fait, il essaie de l'avoir. Et c'est tout le sujet.
Il la cherche.
Il la cherche parce qu'en fait, on voit effectivement son appui, sa main gentille de vouloir récupérer. Le sujet, c'est il se porte volontaire pour récupérer ce stock d'uranium enrichi et donc le conserver pour éviter que l'Iran puisse enrichir davantage et atteindre ce fameux seuil de 90% d'enrichissement uranium. Ce déplacement géographique cache en réalité un déplacement de dépendance géopolitique. Dès lors qu'ils ont les 60% d'uranium enrichi, qu'est-ce qu'ils disent en fait à leurs alliés ou ennemis mondiaux ? Ben écoutez, vous pouvez pas compter sans moi, car si vous m'embêtez un peu trop... Bah, j'ai peut-être envie d'aller aider mes copains iraniens sur le plan d'Alon Prolif. Donc là, ils essayent de revenir, j'allais dire, par la fenêtre quand on les a, quand on leur a fermé la porte, dans le cadre du conflit qui les oppose à l'Ukraine, en disant, ben, nous, on est un partenaire important. Pour compléter ce qui a été dit à très juste titre par Didier, il faut rappeler que, effectivement, il y a déjà un chemin qui existe, entre guillemets, habituel entre les Iraniens et les Russes par, vous savez, les matières fissiles, enfin, le combustible de Bouchehr. Vous savez, cette centrale civile nucléaire dont on a parlé, elle fait que du civil. Pour nos téléspectateurs, l'enrichissement qu'il y a à Natanz et à Fordow n'est pas un enrichissement. Ce stock-là ne permet pas à Boucher de produire. Le stock, et ça c'est un protocole signé avec l'AEA,
absolument.
C'est les Iraniens qui ramènent cet uranium enrichi. Ce sont les Russes qui amènent cet uranium enrichi aux Iraniens, qui le mettent dans leur centrale à Boucher, qui fait un mégawatt, et ensuite le combustible usé, ils le rapportent en Russie. Je vais y arriver. Et donc, ce que veut conserver l'Iran, c'est le droit à l'enrichissement. Et eux, ce que disent les Iraniens depuis le début du conflit, on est prêts, nous, à, dès lors que vous nous laissez ce droit à enrichir, la matière, en fait, le combustible, on vous le rend. Et c'est exactement sur ça qu'ils veulent jouer. C'est un, rendre ce stock d'uranium enrichi, mais ne pas toucher à ce droit d'enrichissement. Chose contre laquelle les États-Unis, dès le mandat 1 de Donald Trump, était totalement opposé. Donc le risque pour les Américains, c'est de perdre la face par rapport à une première posture d'il y a quasiment presque 10 ans aujourd'hui, et dire en fait on a ce fameux JCPOA moins bien, chose contre laquelle j'attire l'attention depuis le début de l'offensive au mois de février.
À l'instant, la porte-parole de la Maison-Blanche confirme effectivement que cette réunion de crise a bien eu lieu aujourd'hui à la Maison-Blanche, réunion de crise sur l'Iran, mais laisse planer toujours le doute effectivement d'une reprise des affrontements avec l'Iran. Il y a un endroit où les affrontements, en tout cas, se poursuivent bien. C'est au Liban. On va retrouver tout de suite l'un de nos envoyés spéciaux sur place, Nicolas Quadou. Bonjour, Nicolas Quadou. Vous êtes sur place avec Fanny Morel à Beyrouth. Il y a quelques instants, c'est le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui a expliqué que les actions, je cite, du Hezbollah imposaient la poursuite de l'action militaire au Liban. Sur place, les frappes continuent.
Si on regarde les faits, finalement, cette action militaire de la part d'Israël, elle s'est pas vraiment arrêtée. Donc, c'est étonnant de parler de poursuite parce que depuis le début de ce cessez-le-feu, il y a toujours des frappes qui sont menées chaque jour par l'armée israélienne sur le territoire libanais. Certes, il n'y a plus de frappes sur la banlieue sud de Beyrouth, l'un des fiefs du Hezbollah, Darié, qui avait été ciblé très largement depuis le début de cette guerre, mais le sud du pays est très largement pilonné chaque jour par l'armée israélienne. 3 morts aujourd'hui, 13 hier, c'était la journée la plus meurtrière, 6 le jour d'avant. Bref, tous les jours, il y a des frappes de l'armée israélienne. D'ailleurs, dans le cadre de ces cessez-le-feu, l'armée israélienne, Tzahal, expliquait qu'il se réservait le droit de frapper toute activité ou toute menace du Hezbollah présente ou en préparation. Une définition assez large finalement qui laissait les mains libres à l'aviation israélienne. Le Hezbollah également a mené des attaques contre les forces armées israéliennes, notamment dans le sud du pays. Attaques revendiquées systématiquement et même documentées avec des vidéos. Aujourd'hui, on a eu plusieurs images fournies par le parti milice chiite d'attaques de drones, drones kamikazes sur des positions israéliennes. Bref, on voit bien que ce cessez-le-feu, il est toujours extrêmement fragile alors qu'en parallèle se mène toujours les négociations de paix entre ambassadeurs libanais et israéliens. D'ailleurs, le Hezbollah, aujourd'hui, s'est exprimé en rappelant sa position. Le Hezbollah est contre ces négociations. Il a même accusé le gouvernement de faire des concessions gratuites à Israël dans le cadre de ces négociations. Le président Joseph Aoun qui a répondu en expliquant en substance que le Hezbollah, qui selon lui avait déclenché cette guerre par ses attaques en soutien à l'Iran, n'avait finalement pas droit au chapitre dans ces négociations.
Merci beaucoup Nicolas Quadou à Beyrouth avec Fanny Morel, général Paloméros. Les frappes se poursuivent au Liban de la part de Tzahal.
Oui, qui pourrait en douter. Tzahal n'a pas atteint ses objectifs stratégiques. D'ailleurs, on ne les connaît pas, ses objectifs stratégiques. C'est aller le plus loin possible et exfiltrer le Hezbollah, le frapper sous toutes les formes. Mais le Hezbollah a une résilience lui aussi, tout comme l'Iran, soutenu par l'Iran, bien entendu. Il a sa résilience propre. On pensait que pendant la guerre des 12 jours, il avait sensiblement baissé la garde et qu'il était affaibli. Ben pas du tout. Lui aussi, il sait très bien manœuvrer sous terre. Il s'est enterré aussi. Il possède encore visiblement de l'armement. Et la seule solution qu'aient trouvé les Israéliens, je la critique pas, mais c'est la force, c'est la violence. Et c'est pas une réplique de Gaza, mais c'est quand même une force de destruction quelque part pour interdire au Hezbollah de pouvoir utiliser cette partie-là du Liban. Mais La vraie question, c'est que va-t-il se passer après? Ça a toujours été le cas dans l'histoire des relations entre Israël et le Liban. C'est qu'il n'y a jamais eu, on n'a jamais écrit. Alors, ils essayent avec les accords de paix, là, mais le Hezbollah, évidemment, se met en travers du chemin.
Didier, il y a quelque chose qui me semble extrêmement intéressant à relever. J'ai lu ce matin chez nos confrères des Échos pour dire de la tension, ce que ça dit de la tension et du monde, dans le, si j'ose dire, du retour de la guerre dans lequel on vit, sont les entreprises de l'industrie de l'armement française qui croule sous les commandes, notamment de tous les pays du Golfe.
Oui, entre autres.
Pour la question des radars, des drones, bien sûr, on connaît les rafales, munitions. Les munitions.
Ah oui, bien sûr.
Ça dit quand même quelque chose d'un climat international dans lequel on se trouve depuis plusieurs mois et de ce basculement historique.
Enfin, le basculement, il a eu lieu le 24 février 2022 quand la Russie a envahi l'Ukraine. On a changé de monde. On a quand même un État membre du Conseil de sécurité qui a décidé d'attaquer sur le sol européen et qui menace directement notre sécurité. Donc oui, évidemment, tout le monde a... Enfin, regardez, les relations avec les États-Unis ont changé, les relations des pays qui, pendant des années... il y a quand même deux pays qui ont rejoint l'OTAN, la Finlande et la Suède, qui n'étaient quand même pas des va-t-en-guerre. Tout le monde est en train de se poser la question de savoir à quelle sauce on les mangeait si on n'évite pas cette guerre en se musclant. Ouais. L'idée, c'est d'éviter la guerre. Et pour éviter la guerre, il faut être fort. C'est ce que dit le président toujours, il faut être crème. La vérité, c'est ça. Ou le chef d'état-major le disait très bien, c'est gagner la guerre avant la guerre, faire en sorte que le calcul de l'adversaire comprenne que la guerre, ça sera trop cher. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut monter en gamme. On a des années de retard. On a des années pendant lesquelles on était quand la France était totalement autonome, elle avait un PIB à 3-5% à l'époque du général de Gaulle quand on a fait la dissuasion, etc. On était descendu on a un retard terrible, moins que les autres, mais on a un retard terrible. Regardez les Britanniques, regardez les Allemands, etc.
On avait une croissance aussi à l'époque.
Bien sûr, on avait une croissance.
C'est un vrai sujet.
Je vous redonne la parole dans une seconde.
Pour compte de ce que vous dites, effectivement, c'est le budget de la défense qui a été proposé par la Maison-Blanche à 1500 milliards de dollars. C'est un budget absolument jamais inégalé depuis des décennies, voire depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et que demande Donald Trump à ses électeurs, aux Américains? C'est de faire un effort. Il a dit, nous sommes en guerre. On fait un effort sur d'équerre, donc ça veut dire les gardes d'enfants, et sur Medicare, c'est-à-dire le système de santé. C'est quand même un message assez fort qu'il envoie. Et puis, autre remarque, moi je suis diplômée d'une université américaine. L'une des matières phares qu'on vous enseigne, c'est la reconstruction des pays en guerre. C'est comment on gagne des contrats. Les entreprises de défense américaines en particulier, mais pas que, s'infiltrent dans les pays en reconstruction. Construction pour remporter.
Enfin, là, pour l'instant, avant de reconstruire, tout le monde a besoin de munitions.
Ce que je voulais dire, c'est que le constat que venait de faire Didier, on peut l'étendre en fait à l'ensemble des pays européens qui ont, on le sait, enregistré les bénéfices de la paix dans les années 90, qui ont considérablement réduit leur budget de défense au profit des dépenses sociales. Je rappelle peut-être un chiffre qui est intéressant. 50% des dépenses sociales dans le monde sont concentrées sur le continent européen. Ce qui fait d'ailleurs que notre vie est globalement quand même assez confortable par rapport à beaucoup d'autres continents. Le problème, c'est que, pour filer la métaphore bien habituelle, dans un monde de carnivores, on peut pas rester les seuls herbivores. Et la difficulté qu'on va avoir effectivement dans les années qui viennent, c'est de reconstituer des capacités de défense au moment où on a un voisin russe qui, une fois la guerre en Ukraine finie, pourrait peut-être s'en prendre aux territoires européens. Et puis au moment aussi où l'allié américain est peut-être un peu moins certain qu'avant et où il exige en tout cas que nous soyons à nouveau plus autonomes, plus capables de nous défendre nous-mêmes.
On retrouve Antoine Delard à Washington. Justement, Antoine, la porte-parole de la Maison-Blanche a confirmé que cette réunion de crise sur l'Iran avait bien eu lieu. Qu'est-ce qu'elle vous a dit ?
Alors, elle l'a dit pendant un point presse à la Maison-Blanche. Elle confirme effectivement la tenue de cette réunion. Elle ne dit pas qui était autour de la table. Elle parle des équipes de sécurité nationale de Donald Trump. Ça veut dire qu'il y avait probablement tous les personnages les plus importants sur les sujets diplomatiques et de défense, notamment le chef de la diplomatie, Marco Rubio, le ministre de la Défense également, Pete Hegseth, le patron de la CIA également, probablement participe généralement à ce type de réunion, ainsi que tous les conseillers diplomatiques et sécurité nationale de la Maison-Blanche. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle elle dit qu'au cours de cette réunion, on a étudié la nouvelle proposition iranienne. C'était une information qui avait été donnée au préalable par Axios. Cette proposition iranienne, elle consiste à discuter la fin de la guerre en deux temps. Le premier temps, ce serait d'abord de lever les blocus respectifs américains et iraniens. Le blocus iranien sur le détroit d'Ormuz, le blocus américain sur les pétroliers iraniens, le blocus sur les ports iraniens. Et une fois que cette question est réglée, une fois que la navigation a repris dans cette région du monde autour du détroit d'Ormuz, là, on pourrait discuter et se mettre autour de la table pour discuter de la question du nucléaire. A priori, cette façon de procéder ne convient pas à Donald Trump. Donald Trump estime que le blocus qu'il a imposé sur le pétrole iranien fonctionne, qu'il met une pression terrible sur Téhéran et que c'est la seule façon finalement de faire bouger les lignes, de forcer Téhéran à faire des compromis sur le nucléaire. Il ne souhaite donc pas se débarrasser ou faire l'impasse sur cette arme qu'il juge très efficace. Est-ce que sa position a évolué pendant cette réunion ? Est-ce qu'une décision a été prise ? Mystère. La porte-parole de la Maison-Blanche ne l'a pas précisé. Elle indique simplement que Donald Trump s'exprimera probablement prochainement sur ce sujet.
Merci beaucoup Antoine Hollard depuis Washington. Général, je voyais réagir aux propos de notre correspondant.
Non, ce qui est frappant, c'est qu'on a des trous de mémoire quelque part. Donald Trump, il a voulu cette guerre. On n'y croyait pas, mais il l'a décidé. Nous ne l'avons pas voulu. Donc à partir de là, tout ce qui se passe en ce moment se décline.
Bien sûr.
Et qu'est-ce que demande notre président ? Qu'est-ce que demandent les pays européens, comme beaucoup d'autres ? S'il vous plaît, Monsieur Trump, revenez à l'état initial. Laissez passer les bateaux pour que les passes d'arène laissent passer les nôtres. C'est ça qu'il lui demande. Et lui, évidemment, qui est en train de se battre et qui a lancé quand même une bataille presque de survie, quelque part, il n'est pas enclin à faire ce qu'on lui demande.
Didier.
Oui, mais moi, je suis totalement d'accord. Oui, évidemment, ça pèse sur nos finances, ça pèse sur notre économie. Enfin, s'il arrête et qu'il laisse le régime iranien
bien sûr
en état, avec idéologiquement plus fort que jamais, qui va soutenir l'ensemble des mouvements terroristes locaux, qui va menacer l'ensemble des voisins. La Chine va se dire « Oh là là, bonne affaire !» En fait, les Américains, c'est le tigre de papier, en avant Guingamp. Donc, je veux dire, lui, il est dans une logique où aujourd'hui, après avoir... Encore une fois, nous, on voulait pas qu'il la fasse. Il a fait cette guerre, il a déclenché cette guerre. S'il l'arrête aujourd'hui sans une victoire, mais c'est une catastrophe internationale, que les choses soient claires. C'est-à-dire que les Chinois vont revenir, les Russes vont revenir. Enfin, si aujourd'hui, à la sortie, c'est les Iraniens qui gagnent la guerre, je peux vous dire, on l'a peut-être pas demandé, mais on sera pas les plus
arrangés. Je suis totalement d'accord sur cet équilibre. Effectivement, je rappelle quand même que le fait que l'Iran puisse avoir un jour l'arme nucléaire doit rester quand même un tabou et un vrai travail qui mobilise le monde entier. Ce qui a été le cas jusqu'au moment où les États-Unis se sont quand même retirés d'un traité qui était en train, enfin d'un accord qui était en train de se faire. Mis à part, on parle de l'Europe, j'entends. Pardon, j'ai travaillé pendant assez longtemps sur un continent qui s'appelle l'Afrique, qui n'a absolument rien demandé, qui est incapable de pouvoir avoir la main sur les conséquences. Je rappelle, j'étais moi au palais présidentiel à Madagascar quand on a un coup d'État pour des questions énergétiques. Aujourd'hui, Madagascar vit un renouvellement d'urgence énergétique où les gens vivent avec des délestages insupportables. On met dans des situations des pays qui n'ont rien demandé. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas faire.
Non mais
je dis qu'est-ce que les États-Unis proposent aussi à ces pays-là pour les rassurer. Et c'est là où il y a un vide.
D'ailleurs.
Et ben voilà. Et donc, il ne faut pas s'étonner qu'effectivement, sur le curseur du tribunal mondial, il fasse pas partie des gentils. C'est ça le problème.
C'est un
peu
soit gentil ou pas gentil.
Non, ce que je veux dire, c'est que les pays du monde ne considèrent pas que les conséquences qu'ils prennent ne viennent tous de la part des Iraniens. Et c'est mon problème. En fait, on devrait être effectivement tous d'accord pour dire que la prolifération iranienne, c'est un tabou et des proxys.
Il y a l'unanimité.
Laure voudrait dire un mot. Lova. Je lui passe la parole.
Merci, pardon.
Non, mais on en a déjà parlé sur ce plateau. On a un changement majeur de la visage de la communauté internationale avec la Chine, la Russie, l'Iran qui font des alliances, avec l'usage de la crypto-monnaie, on en parlait, ou crypto-actifs, notamment dans le détroit d'Ormuz, qui est un moyen de paiement qui est de plus en plus utilisé par le Sud global et la communauté, la nouvelle communauté internationale, avec la Chine au centre du jeu. dont l'image est améliorée de jour en jour et qui ringardise toujours un peu plus les États-Unis d'Amérique avec des vidéos et un petit peu quand même.
Je suis un peu plus nuancé là-dessus. Ce que disait Elsa tout à l'heure. Est-ce que c'est vraiment une mauvaise opération pour les États-Unis? C'est clair que l'image d'un pays agressif, va en guerre, etc., va se renforcer. Maintenant, si on est dans le domaine de la pure réelle politique, de la géopolitique, ce que les Américains ont démontré quand même aux Chinois, c'est qu'ils étaient sur le plan militaire en avance par rapport à eux. Ils agressent un de leurs protégés, l'Iran, sans que la Chine réagisse. Et beaucoup d'États qui, en réalité, regardent quoi? Regardent la plus forte, la force, hein, regardent les rapports de force pure, se disent, bon, les États-Unis sont peut-être pas gentils, mais ils sont quand même assez impressionnant. Et je pense que dans le grand match, parce qu'en réalité,
on est à 15 jours durant la rencontre.
Ce qui se passe actuellement, c'est que les mécanismes onusiens sont quand même très dévalués. Oui. L'ONU n'est plus capable de réguler la force internationale. Et en fait, derrière le Venezuela, derrière Cuba, derrière l'Ukraine, derrière l'Iran, le point commun, c'est quoi? C'est le grand affrontement qui est en cours sino-américain.
Général, mon général, qu'est-ce qui est en train de se passer des deux côtés dans les deux armées en ce moment même, au moment où le conflit peut reprendre?
Ah ben, ce qui est sûr, c'est que du côté des Iraniens, ils essayent par tous les moyens possibles de reconstituer leur dissuasion conventionnelle, c'est-à-dire leur missile stratégique, leur missile balistique. Ça, c'est vraiment leur arme de choix, plus bien sûr des drones, mais ça, ils en fabriquent à la demande et à l'appel. Ils commencent à savoir quand même se protéger contre les drones, ça c'est la bonne nouvelle, contre les drones en masse. Mais les missiles balistiques, ça reste leur objectif. Donc très clairement, c'est leur priorité. Du côté de la coalition, c'est un peu... encore faudrait-il que définir des buts clairs pour définir l'outil militaire qui répond le mieux à la question. Là, on a pris le gros marteau. C'est pas pour écraser une mouche, c'est quand même un peu plus gros que ça. Mais il y a tout, sauf que c'est pas forcément quand on a beaucoup d'assets comme ça qu'on gagne une guerre. C'est surtout quand on a des objectifs clairs, une volonté de le faire. Et que c'est compris aussi par les alliés.
Je
crois qu'on est passé un peu vite quand même aussi sur ce que disait Emmanuel Macron tout à l'heure en Andorre, c'est-à-dire que au retour de ce déplacement, il veut reprendre la tâche avec les Iraniens au nom des pays coalisés aussi pour la réouverture du détroit d'Ormuz. Il faut quand même pas désespérer de notre diplomatie. Et si on arrive à obtenir, à faire des progrès dans ce dossier, nous les Européens avec les Français à la tête, alors on aura marqué des points très lourd face au Sud et face aux États-Unis.
Merci beaucoup à vous tous d'avoir été avec moi pour décrypter cette escalade qui reprend entre l'Iran et les États-Unis. Notre invité du jour vient d'arriver. Bonjour Charles Alonque. Vous arrivez tout juste, effectivement, en courant parce que vous arrivez de l'Assemblée nationale et votre rapport sur l'audiovisuel public sera bien publié. Vote serré, je crois, 12 voix pour, 10 voix contre.
Ça s'est joué de façon très serrée, 12 voix pour et 10 voix contre, effectivement.
Ouais. Qu'est-ce que vous répondez, justement? Certains disaient, il dit qu'il y aura une censure. Il n'y a pas de censure, finalement.
Non, mais vous savez, ça s'est joué à très peu de choses, ça s'est joué à deux voix simplement. Je remarque qu'une partie de la gauche prenait les critiques contre l'audiovisuel public comme des critiques personnelles, ce que j'ai eu un peu de mal à comprendre. Il a fallu un certain nombre de compromis lors de ces discussions pour arriver à un vote favorable, mais ça n'a pas été chose aisée.
Alors on voit que vous avez été ciblé même ces dernières heures par le président de la commission d'enquête qui travaillait pourtant avec vous, qui est un élu Horizon. Il a regretté, je cite, que des auditions soient transformées en tribunal politique ou en procès individuel. Il va même plus loin. Il met en doute votre probité. A-t-il mené son travail en toute indépendance et impartialité, dit-il, à votre sujet? De qui étiez-vous le porte-parole?
J'étais le porte-parole des Français qui tiennent à l'audiovisuel public, qui ont été... comme moi, éveillé notamment à la chose publique et au débat politique grâce à un certain nombre d'émissions et qui aujourd'hui ont du mal à se retrouver dans certains contenus et programmes et ont du mal aussi à accepter que certaines de ces entreprises, par une faillite financière, puissent être amenées à disparaître. Donc, je voudrais simplement le dire, depuis le début de cette commission d'enquête, mon seul objectif était de braquer un projecteur sur les dérives et sur les dysfonctionnements de l'audiovisuel public, de proposer des recommandations pour mieux les résoudre et pour mieux sauver aussi ces entreprises.
Qu'est-ce que vous répondez au rapport? Qu'est-ce que vous répondez au président de la commission quand il met en doute votre impartialité?
Moi, je veux pas rentrer dans la moindre polémique. Depuis le début, j'ai toujours veillé à ce qu'on braque le projecteur sur le fond, pas sur la forme, pas sur les critiques. J'ai voulu accuser personne. Je veux pas qu'on rentre dans ce piège-là. Je pense qu'il y a beaucoup de sujets sur la gestion financière, sur les conflits d'intérêts, sur l'omniprésence des sociétés de production qui perçoivent à peu près 1 milliard d'euros par an de France Télévisions pour produire des contenus du service public, il y a suffisamment de matière pour rentrer dans des polémiques assez stériles.
Des propositions très concrètes, justement. Il y en aurait 80, c'est ça, dans votre rapport ?
Un peu moins de 80, vous êtes bien renseigné, oui.
Qu'est-ce que vous proposez ? Quelle est la proposition qui vous semble la plus urgente à mettre en œuvre ?
Je vais vous décevoir parce qu'il faut attendre la publication du rapport dans une semaine, lundi prochain, pour que je vous révèle des préconisations et des recommandations.
Mais est-ce que, par exemple, la nomination des dirigeants de l'audiovisuel public directement par l'Élysée, vous y êtes plutôt favorable ?
Alors, j'ai lu beaucoup de fausses informations qui ont circulé, je le déplore, depuis quelques jours, notamment celle-ci.
Ça, c'est faux.
Alors, c'est faux parce que je peux pas trop trahir ce qu'il y a dans le rapport, mais maintenant que le vote est favorable, j'ai peut-être un peu plus de liberté. J'explique aujourd'hui qu'une décision de l'ARCOM, qui est l'autorité à la fois qui nomme et qui contrôle, est une forme d'hérésie. Il y a que 8 personnes qui, dans le secret quasiment d'une conciliation, nomment. Moi, j'entends mettre l'Assemblée et le Sénat au cœur des nominations, notamment des présidents d'entreprises de l'audiovisuel public. C'est l'une des recommandations que je fais. Proposition du président, vote des commissions des affaires culturelles de l'Assemblée et du Sénat pour apporter plus de démocratie.
C'est pas rendre totalement dépendants du pouvoir politique les dirigeants de l'audiovisuel public.
Je crois que les parlementaires pour lesquels les Français votent en temps régulier, ont une mission, une belle mission, une belle vocation qui fait leur honneur, celle de représenter les Français. Et je crois qu'à l'avenir, d'avoir des présidents d'entreprises publiques comme Radio France et France Télévisions qui sont soumis au vote des représentants du peuple, ce sera bien plus démocratique, pluraliste et transparent que ce qui se fait aujourd'hui avec la nomination simplement par 8 personnes de l'ARCOM.
Fusionner des chaînes, France 2, France 5, ça aussi ?
Alors,
oui,
je ne peux pas m'exprimer, bon, mais alors, il y a un certain
réponse
nombre.
Réponse courte, oui ou non ?
Il y a 100 chaînes de télé et de radio publiques, il faut en fusionner certaines à l'évidence.
100 Ah, mais parce que vous cotez toutes les régions aussi, notamment
du réseau
France 3.
Et quand on enlève les régions et le réseau ultramarin, il y en a une cinquantaine. Donc on voit qu'il y a une profusion de chaînes de télévision et de radio qui coûtent 4 milliards d'euros par an. Et pour les rendre plus intéressantes et distinctes aussi du privé, il convient de les optimiser, notamment d'opérer certaines fusions.
Est-ce que vous êtes plus largement pour la privatisation de l'audiovisuel public ?
Depuis le premier jour, je l'ai dit, c'est un mauvais procès et des fausses informations qui ont circulé. Je ne suis pas favorable à la privatisation. Je pense que...
C'est pourtant ce que souhaite votre partenaire, le RN. Je rappelle, vous appartenez à l'UDR, c'est le parti d'Éric Ciotti qui est allié avec le RN. Qu'est-ce que vous ferez si vous gouvernez ensemble ? Le RN veut privatiser l'audiovisuel public.
Alors, il faut détailler davantage les propositions du RN et de l'UDR, dont je suis membre, le parti d'Éric Ciotti qui m'a fait confiance. Non, en fait, ils expliquent qu'il y a un certain nombre de chaînes, il y a un certain nombre d'optimisations à conduire. Ils ne sont pas pour une privatisation sèche du jour au lendemain. Notamment, la proposition d'Éric Ciotti, moi je fais partie du groupe UDR, explique qu'il y a des pistes de réforme, des pistes d'optimisation. C'est d'ailleurs tout l'objet du rapport. Quand vous voyez qu'il y a 4 milliards d'euros d'argent dépensés par les Français chaque année, qui représente la moitié du budget du ministère de la Culture...
Pour France Télévisions, je crois que c'est 3 euros par mois et par Français.
Pour France Télévisions, il y a un budget d'un peu plus de 3 milliards d'euros par an. Je vais simplement vous faire une comparaison sur le domaine de la culture. La moitié du budget du ministère est consacré à l'audiovisuel public. Vous n'avez que 4,5% consacré à la sauvegarde des monuments en péril. Et pourtant, il y en a nombre. Des petits théâtres, des phares, des moulins... Donc, tout est une question de proportion, mais je pense que pour sauver notre patrimoine, il y a aussi des efforts à faire ailleurs, notamment sur la poche du ministère.
Ce qui a été mal perçu parfois, c'est les critiques qui ont été reçues par les salariés. Est-ce que vous avez le sentiment que les 8720 salariés de France Télévisions sont tous d'affreux militants politiques ?
Alors, j'ai pu lire dans les colonnes, notamment de vos confrères du Figaro, qu'il y avait un certain nombre de syndicalistes, de représentants des salariés de France Télévisions, notamment Force Ouvrière, qui est le premier syndicat représentatif des salariés, qui se félicitait de cette commission d'enquête, qui était très enthousiaste des questions qu'on pouvait poser, qui estimait que c'est une entreprise de salubrité publique d'avoir mené ces missions. Donc, on donne parfois un peu trop la parole à la CGT, qui n'est plus le premier syndicat représentatif chez France Télévisions. Mais vous avez nombre de salariés qui se félicitent de ces travaux, qui se félicitent de ces questions. Beaucoup m'ont envoyé des contributions et m'ont alimenté pour affiner un peu mon regard. Et je pense qu'aujourd'hui, ils sont ravis de voir qu'un rapport sera publié avec beaucoup de recommandations.
Une question très concrète, Patrick Sébastien, que vous avez été auditionné, est en conflit ouvert avec Delphine Ernotte. J'imagine que ça ne vous a pas échappé. Il a publié vendredi une chanson grossière et vulgaire contre la présidente de France Télévisions, qui a annoncé qu'elle porterait plainte pour outrage sexiste et sexuel. Est-ce que vous apportez votre soutien à Delphine Ernotte ?
Écoutez, je vous avoue que dans la rédaction du rapport, dans cette période intense où le président macroniste ne m'a laissé que 10 jours pour rédiger un rapport de près de 400 pages, j'avais suffisamment à faire. Malheureusement, j'aurais aimé pouvoir écouter, regarder les dernières chansons de Patrick Sébastien. Et pardon, je suis un peu étranger à ça. Je me suis concentré ces derniers jours sur la
rédaction. Ça vous pose pas de problème quand il dit, je cite, excusez-moi des termes, Delphine, si t'avais connu ma pine, on aurait été si heureux, vous condamnez pas ça?
Ah, c'est pas forcément mon humour. On n'a pas forcément tous le même humour, mais je pense qu'on est dans un pays où la liberté d'expression est importante. Il faut la sanctuariser. Et vous le verrez peut-être dans mon rapport, je ne condamne pas les humoristes. Je pense que la place de l'humour en France est l'un des principes de l'ADN de notre esprit français. Donc il faut aussi sanctuariser ce droit à la dérision et à l'humour.
Merci, cher Arlong, d'avoir été notre invité. L'information continue sur BFM dans un instant. Vous retrouvez Julien.